Une tasse de thé, madame, par Jean Lecoq. Sans aller jusqu'à prétendre que c'est nous qui fîmes connaître le thé à nos voisins, nous pouvons cependant affirmer qu'il fut importé chez nous avant de l'être chez eux. La plus ancienne mention qui soit faite de l'usage du thé en Angleterre se trouve dans une déclaration de Pepys, le plus consciencieux des chroniqueurs britanniques du XVIIe siècle, lequel écrit « C'est le 28 septembre 1660 que j'ai bu ma première tasse de thé. » Or, à cette époque, il y avait 4 ans déjà que l'on connaissait le thé à Paris. Le médecin Bautier a raconté en effet qu'en 1656, Mazarin, souffrant de la goutte, voulut essayer d'une tisane qu'un marchand d'Amsterdam avait introduite peu de temps auparavant à Paris et qui, disait-on, faisait merveille contre la migraine et toutes sortes d'affections de nature nerveuse ou rhumatismale. Cette tisane n'était autre que du thé de la Chine. Mazarin s'en étant trouvé bien, il n'en fallut pas plus pour le mettre à la mode et toutes les belles dames du temps ne voulurent plus d'autre remède pour dissiper leur vapeur. Les Chinois revendiquent pour leur pays la gloire d'avoir le premier cultivé le théier et inventé le précieux breuvage dont les bienfaits devaient être, dans l'avenir, appréciés par tous les peuples civilisés. La découverte des propriétés du thé serait due, suivant eux, à un de leurs savants, agronome et médecin nommé Ching Nong, qui vivait vers l'an 2700 avant Jésus-Christ. Ce personnage entretenait un jour son feu avec des branches d'un arbuste de son jardin. Quelques feuilles se détachèrent et volèrent dans une casserole d'eau bouillante devant servir à préparer les aliments pour le repas. L'eau exhala alors un parfum si délicat que Ching Nong y goûta. Il trouva le breuvage savoureux, excitant pour l'esprit, agréable au goût, favorable à la digestion, si bien qu'il en conseilla l'usage à sa clientèle et que bientôt l'usage du thé se répandit dans le pays. Telle est l'histoire ancienne du thé. Passons à l'histoire moderne. Il est fort probable que les premiers importateurs du thé en Europe furent les Portugais et les Hollandais, grands navigateurs et maîtres du commerce avec l'Extrême-Orient jusqu'au XVIIIe siècle. Nous avons vu plus haut d'ailleurs que les feuilles de l'arbre à thé furent rapportées à Paris par un marchand d'Amsterdam. Les médecins parisiens adoptèrent la tisane nouvelle, mais seuls leurs malades fortunés purent en user, car le thé était rare et d'un prix excessif. Louis XIV, gros mangeur, souffrit dès sa jeunesse d'embarras gastrique. Ses médecins étaient à l'affût de tous les remèdes nouveaux pour améliorer l'état stomacal du monarque. On lit dans le journal de la santé du roi, pour l'année 1665, qui lui prescrivirent des infusions de thé pour faciliter ses digestions. Pendant ce temps, le thé faisait florès en Angleterre. La reine Catherine de Bragance, femme de Charles II, ayant trouvé toutes sortes de vertus à la boisson nouvelle, le thé ne tarda pas à susciter un véritable engouement à la cour et parmi les personnages de la bonne société. L'usage se répandit bientôt dans l'aristocratie anglaise de prendre le thé 3 ou 4 fois par jour et d'en boire de 10 à 12 tasses à chaque séance. L'évêque de Londres, dit-on, allait même jusqu'à 25. Un cérémonial assez compliqué présidait à ces orgies d'eau chaude. Les buveurs de thé étaient assis autour d'une table ronde et chacun d'eux, après avoir vidé sa tasse, la passait à la maîtresse de maison. Si la petite cuillère était posée sur la soucoupe, cela voulait dire que le buveur abandonnait la partie. Si au contraire elle était restée dans la tasse, cela signifiait qu'il voulait continuer. Un provincial ou un étranger qui n'était pas initié au secret de ce langage symbolique et qui n'avait pas laissé sa cuillère dans sa soucoupe était condamné à boire tasse sur tasse jusqu'au moment où il se décidait enfin à demander grâce à la maîtresse de maison qui lui infligeait, sans en avoir conscience, un supplice comparable à celui de la torture par l'eau. Pour éviter les confusions faciles à prévoir dans ce va-et-vient des soucoupes et des tasses, il était de règle que les petites cuillères fussent numérotées. Le thé fut longtemps chez nos voisins, boisson de princes et de riches. Son prix élevé en interdisait la consommation à la partie moyenne de la population. On le vendait au début plus de 200 francs la livre. Cependant, les chroniqueurs du temps rapportent qu'il existait déjà à Londres, près du Royal Exchange, un établissement public, le Sultan's Head, où l'on consommait une boisson chinoise excellente, spécialement recommandée par les médecins et que l'on appelle en Chine cha, thé. Une autre maison de thé fut créée un peu plus tard, qui devait acquérir une grande célébrité et subsister pendant près de 200 ans. c'est le Ganaway, qui ne disparut que dans les dernières années du XIXe siècle. Ces établissements étaient fréquentés surtout par les opulents financiers et les gros marchands de la cité, très amateurs de thé et seuls bourgeois assez riches pour pouvoir s'offrir une telle boisson de luxe. Ce ne fut que plus tard, beaucoup plus tard, quand l'importation fut méthodiquement organisée, que le goût du thé se répandit en Angleterre dans toutes les classes. Au début du XIXe siècle, la bourgeoisie d'abord, puis le peuple, commencèrent à apprécier l'infusion de la feuille chinoise. Vers 1850, le thé était devenu, pour tous les Anglais, même ceux des campagnes, une véritable boisson nationale. Chez nous, le thé fut beaucoup plus lent à conquérir la faveur générale. Il fut d'abord, comme en Angleterre, le breuvage préféré de la société élégante et riche. Les lettres de Madame de Sévigné nous apprennent qu'au XVIIe siècle, il était de bon ton d'aller prendre le thé chez les carmélites de la rue du Boulois. C'était Sœur Louise de la Miséricorde, l'ex-mademoiselle de la Vallière, qui avait créé et mis à la mode ce premier salon de thé. Marie-Thérèse y rendait parfois après la messe à Notre-Dame et elle y rencontrait Madame de Montespan. Piquant tableau, la femme et la favorite en titre servie par l'ancienne maîtresse du roi. Madame de Sévigné, qui nous apprend cela, nous dit encore que c'est Madame de la Sablière, la charmante amie de La Fontaine, qui eut la première l'idée de verser sur sa tasse de thé un nuage de lait. Au XVIIIe siècle, la religion du thé fut de plus en plus respectée dans la bonne société. Les réunions mondaines de l'après-midi, où les poètes et les musiciens faisaient entendre leurs œuvres nouvelles, n'allaient jamais sans une tasse de thé à l'anglaise. Un tableau d'Olivier, gravé par de Los Rios, évoque à nos yeux le souvenir de ces 5 o'clock du siècle galant, lesquels d'ailleurs se passaient à 3 et non à 5 heures. Il nous montre, dans le somptueux salon du prince de Conti, le jeune Mozart au clavecin, tandis qu'élégant et noble seigneur l'écoute en dégustant de fines pâtisseries arrosées d'une infusion de thé. Le thé aujourd'hui s'est démocratisé et sa consommation en Europe a augmenté dans des proportions considérables. Savez-vous que les pays producteurs de thé en exportent chaque année environ 60 millions de kilos? Parmi ces pays producteurs, l'Inde, grâce au thé très apprécié de Ceylan, tient la corde. La Chine vient ensuite, puis le Japon et l'île de Java. Nos colonies de l'Indochine, et plus particulièrement l'Annam, comptent aussi pour une production qui n'est pas négligeable. Et ce thé indochinois est de la meilleure qualité. Très parfumé, riche en caféine et faible en tanin, il a le goût le plus agréable. Malheureusement, on n'a pas fait encore en Indochine tous les efforts nécessaires pour grouper les producteurs et organiser méthodiquement l'exportation. De ce fait, les thés de l'Inde, de la Chine et du Japon trouvent chez nous un débouché plus important que de raison. Là encore, nous négligeons nos intérêts et ceux de la France d'outre-mer. Si la culture du thé en Indochine était sérieusement protégée, si l'importation dans la métropole était organisée comme l'est en Angleterre celle des thés de Ceylan, c'est au moins 60 à 70 millions par an que nous éviterions d'exporter à l'étranger. C'était Une tasse de thé, madame, par Jean Lecoq.